France Culture.
Les nuits de France Culture.
La Grèce, ses philosophes, ses monuments, ses villes anciennes, ses villes modernes. La Grèce, son vin, ses oliviers et sa lumière. Oui, sa lumière si particulière, celle du commencement de tout, celle de l'aube et du crépuscule, celle de la transparence du monde à lui-même, celle que décrit Plotin dans ses Énéades. Tout est transparent, rien d'obscur ni de résistant. Chaque chose est visible pour chaque chose, jusqu'à l'intérieur, ainsi que toute chose, car la lumière est transparente pour la lumière, et en effet, chaque chose possède toute chose en elle, et voit aussi toute chose en chaque autre, en sorte que, partout toutes choses sont là, chacune est toutes, et toutes sont chacune, et la splendeur est sans borne. Au commencement était la lumière, c'est le titre de ce numéro d'Albatros de Dominique Grandmont, qui offre un panorama contemplatif de la poésie de la Grèce moderne en compagnie du scénographe, costumier et amoureux de poésie Yannis Kokos. Il est question de cette lumière grecque qui semble éclairer le monde d'une façon tout à fait singulière, mais aussi de métaphysique, de musique et surtout de poésie. On entend résonner celle de Yannis Ritsos, Andreas Kalvos, Dionysos Solomos et de Nikos Kantzakis dans une émission se déroulant presque hors du temps, au milieu du chant mystique des cigales. Une émission diffusée pour la première fois le 17 février 1980.
Albatros. La poésie de la Grèce moderne. Au commencement était la lumière. Par Dominique Grandmont, Janine Antoine, avec la participation de Yannis Kokos, Michel Opno. Collaboration technique, Michel Kreis.
Les raccourcis historiques ne sont pas toujours des plus saisissants. Et de vouloir parler aussi rapidement à la fois de la langue et de la littérature grecque nous condamne à une espèce de survol, une fois de plus à entrevoir un pays ou la poésie d'un pays vu d'avion, ou à travers une succession de séjours assez brefs dans l'imaginaire qu'elle propose. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de nous arrêter un moment dans une espèce d'émission blanche où nous laisserions cette ambiance-là nous envahir de l'intérieur, où nous tenterions, de l'intérieur du corps, de comprendre comment cet imaginaire et cette langue même ne sont peut-être que la résultante d'un certain nombre d'états physiques précis. Aucun peut-être des poètes dont nous avons parlé n'est étranger à cette démarche, et au-delà des oppositions de surface, on peut voir là ce qu'il y a de commun, j'allais dire, oui, de collectif, chez des poètes aussi différents que Ritsos, pour qui le chemin des combattants de la liberté se perd dans la lumière et dont les héros luttent pour libérer aussi de la mort les étoiles, ou Kélitis qui ouvre son œuvre principale de l'actionnesti, en français, si l'on peut dire, dignum est, par ces mots « Au commencement était la lumière ».
Je suis arrivé à Athènes par la mer. Je suis passé de la lumière compacte de l'eau à la lumière légère du sol de Grèce, de ce sol qui paraît enfanter sa lumière comme une buée subtile, vivante, la véritable fille des lustres du temps sur un espace limpide où tout se confond et s'unit.
Paul Éluard.
Et d'abord, la lumière, peut-on la photographier ? Yanis Kokos, comment ressentez-vous ce rapport entre le choc que fait naître sur un être la découverte de cette splendeur de la nature violente et vierge, de ce dénuement aussi ? Je pense au vers d'Archiloque, le poète antique, « Oublie Paros, ces tristes figues, et cette vie qu'il fallait tirer des flots ». Et est-ce que ce choc est assez important, même quand on a pour seule patrie que la musique ou la poésie ou le théâtre, pour entraîner quelque chose, un état de fait, une morale, pour constituer une référence pendant le reste d'une existence?
Je crois que la lumière, et particulièrement la lumière grecque, est une chose qu'on reçoit pratiquement comme un traumatisme, je dirais. Et en fait, c'est une sorte de souvenir dont, je crois, on ne se remet jamais plus. Et je dis ça sans aucun romantisme, disons, ou sans aucune autre forme comme ça de rhétorique, parce que la chose extraordinaire, je crois, il y a l'expérience qu'on a très jeune, finalement, en Grèce, enfin, quand on a la chance comme ça de se promener dans des paysages ou sur enfin, la crête d'une montagne ou sur une colline, c'est cette verticalité de la lumière qui, en fait, efface complètement les ombres. Et je crois que l'intensité, finalement, de cette lumière fait prendre conscience de notre propre contour, je dirais, c'est-à-dire du contour du corps. Et en fait, en prenant sens de son contour du corps, je crois qu'à ce moment-là, très tôt, on a une conscience très aiguë de la mort, parce que, en fait, on sent immédiatement sa limite. Et finalement, on sait qu'on est extrêmement pauvre, qu'on n'a que finalement ce contour, dans cette nature absolument immuable, parce que c'est un autre, je crois, élément très fort, justement dans le rapport de la lumière et de la nature en Grèce, c'est que on a constamment le sentiment que la nature était là, est là et sera là après. Et malgré la transformation que la civilisation apporte dans cette nature, elle existe dans les souterrains, elle des maisons, elle existe dans les sous les pierres, elle existe sur les sous le béton, sous les arbres, sur les caniveaux, enfin, et c'est cette perpétuité là qui, conjuguée avec la dureté de la lumière, font qu'on a un sentiment très particulier, je crois.
Ou dans le rêve offert par le lait maternel. Une mémoire douce, ancienne, comme éteinte, propose maintenant son éclat impossible. Toute pareille à l'eau qui surgit, éblouie, du sein des monts obscurs, ramenant le soleil, ma vue se transforme en une source aveugle. Je perdais pour un temps cette image divine.
Et en fait, je crois que chacun porte sa lumière, disons, a un rapport avec la lumière de son pays, pratiquement dans tous les pays. Enfin, Scandinave a, je crois, un rapport très particulier avec la lumière du Nord, un Anglais avec la lumière de l'Angleterre. Mais la lumière en Grèce commande.
Oui, je crois en effet que quand on parle de lumière, c'est tout à fait abstrait pour un auditeur français. Dans la mesure où il s'agit, il faudrait peut-être en faire le portrait de cette lumière. Est-ce qu'on peut la photographier, je crois. C'est vraiment une lumière qui coupe qui coupe entre l'ombre et le reste, enfin qui coupe les choses entre elles. On a l'impression que elle nettoie les choses d'une espèce de nuit fondamentale en même temps, et aussi que c'est une lumière qui est assez forte pour traverser les murs, pour
oui,
c'est une lumière assez impitoyable, hein, c'est bien ça.
Tout à fait, et en même temps, je crois que c'est Ritus qui dit ça quelque part. Je le paraphrase, mais qu'en fait, la lumière, c'est l'autre mer. Enfin, c'est en Grèce qu'il y a la mer. Et il y a l'autre mer qui est la lumière.
Comme un brouillard d'argent monte vers les hauteurs pour se dissoudre en fleuve de gloire et de lumière. Je vois le soleil rester seul dans l'air. Il gouverne les cieux qui dansent tout autour selon une juste loi. Il apparaît à l'horizon comme une idée de joie, illuminant la terre et les travaux des hommes qui peinent si fortement.
Et pourtant, n'a-t-on pas assez entendu nos professeurs nous parler de cette lumière, de cette mesure grecque, de cet équilibre ? Bref, la lumière était, si vous me permettez d'être méchant, un équilibre dont on ne savait pas, dont on ne savait plus sur quel déchirement il venait d'être conquis. Et c'est une question que j'aimerais vous poser. Faut-il voir les Grecs de notre époque, ceux tout au moins qu'on dit doués de mémoire, ou atteints de cette forme subtile de délire appelée mémoire, faut-il vraiment les voir circuler au milieu des grandes cités modernes comme des princes déchus dans une république qui aurait simplement substitué les hauts fourneaux aux colonnes harmonieuses? Je cite ici l'un des vôtres. D'ailleurs, tout le monde sait qu'Athènes est une des villes les plus polluées du monde et que l'air d'Éleusis, ce n'est pas un mystère, est à peu près irrespirable, sauf à ceux qui y travaillent. Ce n'est pas là la question que nous posons. L'injustice pour un Grec ne peut pas être du côté de l'ordre. Il ne s'agit pas d'un mal nécessaire. On peut se demander pourquoi. Antigone est-elle un personnage contemporain ? La lumière implique-t-elle un ordre des choses ?
Je crois qu'Antigone est un personnage contemporain. Et je crois qu'elle l'a toujours été, finalement. Et qu'elle le sera toujours. Mais pas dans ce sens où Antigone uniquement veut accomplir ce qui est l'ancienne justice, disons. Mais uniquement dans cette manière, justement, de s'éteindre, je crois, debout dans un paysage aride, justement sous cette lumière comme ça, violente, et de refuser d'accepter l'ordre des choses. Et ce refus, et dans l'Antigone c'est une chose très sensible, se fait avec douceur. Et je crois que finalement, c'est ça l'enseignement, disons, un peu de ce qu'on peut appeler comme ça la lumière grecque. C'est à la fois cette extrême violence, justement, qui marque les contours, qui rend les choses blanches, qui fait que la pierre paraît fossilisée comme ça complètement, et que parfois les corps aussi. Et en même temps, on ne peut qu'à l'intérieur de cette aridité, de cette dureté, répondre et réfléchir avec douceur aussi. Parce que, en même temps qu'elle la révèle ses arêtes, elle la révèle aussi les courbes à la fois des choses et la douceur des couleurs. Et c'est très difficile finalement de dire où se trouve cette limite entre la violence et la douceur. Et finalement, chacun donne, je crois, sa réponse à l'intérieur des villes ou de la nature.
Est-ce que vous croyez que cette lumière implique un ordre immuable des choses, bon, l'éternel retour des choses, comme si le monde était rêvé d'avance et que finalement Antigone n'agit qu'au nom de lois peut-être non écrites, mais qui sont quand même un respect de la loi, et aussi du côté de la loi. Enfin,
oui, mais c'est-à-dire, je ne crois pas que c'est une manière d'arrêter le temps. Enfin, ce n'est pas dans ce sens, je crois, du tout. C'est au contraire, chaque jour, avec le cycle même de la journée, avec cette apparition, cette disparition de la lumière, Recommencer le monde à partir de zéro. Et un peu, disons, par la difficulté aussi que la Grèce a pu retrouver à travers son histoire, c'est cette reconquête de chaque journée, comme dit Eritos aussi, la reconquête du pain de chaque jour, mais en même temps la reconquête de sa présence dans le monde et de son étonnement dans le monde, enfin, dans son étonnement devant le monde.
Le fait est qu'en Grèce, la nature physique agit sur l'homme avec une rare puissance. Il y a bien sûr cet éblouissement qui rend les poètes aveugles. Il y a, quand il est midi, ce tressaillement des choses tellement immobiles sous la lumière qu'elles en bougent. Il y a, et si nous ne le savions pas, la tradition des chants et des contes populaires nous renseignerait ou nous avertirait là-dessus, une magie et même un danger à cette heure-là, qui fait que la lumière ici fonctionne comme la grande nuit des romantiques. Le midi grec est l'heure du crime ou des métamorphoses. C'est aussi, et par excellence, l'heure où l'on se trompe. C'est l'heure du cri, celle du rapt, l'heure où l'éveil s'unit au rêve. Et pourtant, devant ces fastes de l'imaginaire et du silence, ensemble déchaînés, le ciel est simplement limpide, il ne sous-entend ni l'enfer, ni l'apothéose flamboyante. La magie grecque, on n'insiste pas assez là-dessus, est une magie blanche. L'ordre du monde est ressenti comme un juste prodige. Il n'y a pas à se révolter contre lui, je parle du monde et non de la société humaine, puisque l'homme n'entretient pas avec lui un rapport de soumission. Au contraire même, c'est le monde qui est porteur de ces lois non écrites, au nom desquelles il faut quelquefois renverser les autres. À voyager en Grèce ou à lire Elitis, par exemple, on se rend bien compte que les choses sont faites, pour ainsi dire, pour s'emboîter les unes dans les autres. La terre et la mer, par exemple, et même le ciel, tout devient quelquefois du même bleu. On a l'impression que les choses ne sont pas simplement juxtaposées dans une simple coexistence, pacifique ou non, mais qu'elles participent d'une seule et même organisation. On a l'impression que toute chose est à la fois très grande et très petite. On a l'impression que la seule question, c'est celle de la tragédie de l'histoire humaine. Que le seul problème, c'est non pas de dominer une nature qui serait mauvaise, mais de rester à la juste hauteur de ce monde, dont nous sommes à la fois les créatures et les créateurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression précisément que ce contact avec la physique qu'on a dans ce pays-là n'implique pas tout de même un rapport au monde qui, lui, devient foncier, enfin, fondamental?
Oui, parce que, en fait, je crois qu'on est obligé de prendre un parti face à ça. D'abord quand on est jeune, je crois, et après quand on est plus vieux. C'est-à-dire, je vais encore peut-être citer Elitis, enfin très mal, mais il disait que la lumière était composée de syllabes, et que finalement on ne commençait qu'à l'épeler, qu'à savoir ce que c'était, quand on était loin, ou en déportation. Et je crois que c'est très très vrai ça finalement. C'est-à-dire que quand on se trouve à l'intérieur, quand on se trouve en Grèce, comme ça, quand on commence à découvrir et à vivre dans cette lumière, quand même, on prend conscience de ce que je vous disais tout à l'heure, un peu de son contour, et en même temps, tout en prenant conscience, on vit quand même très naturellement avec. Et c'est après, finalement, quand on se trouve ailleurs, quand on se trouve dans d'autres types de lumière, qu'on se trouve confronté avec cette sorte de mystère que peut-être on n'a pas su lire à un moment. Mm. C'est un peu, je crois, par exemple, dans la peinture grecque, moderne, où on peut trouver des réponses, et pas uniquement dans la peinture, au cinéma aussi, je crois, des réponses à cette manière d'approcher la lumière et de savoir ce qu'elle est.
Peut-être que nous retrouvons là cette fameuse indifférence méditerranéenne qui rejoint à l'évidence les sagesses orientales et même extrême-orientales, où ce qui est étrange ne l'est pas, et ce qui est excessif s'efface de soi-même, ou illustre un certain retour des choses. On peut enfin mourir, puisque même l'océan a des rives. Étrange, peut-être, dit Rissos, qu'il y ait des couleurs au-delà du blanc et des ombres. C'est en effet à peine si le paysage grec tolère les ocres, ou ce ton de tuile ou de brique, ou cette couleur dite ici d'huile, d'un vert très sombre, qui garde aux choses comme au corps un air d'éternité, une couleur de sol. Et peut-être sommes-nous en pleine mécanique ondulatoire. La lumière est une matière. Comme la voix, comme l'écho, la lumière coule dans nos veines. Et peut-être un jour, c'est le physicien Louis de Broglie qui parle, et peut-être un jour, quand les temps s'achèveront, l'univers matériel, retrouvant sa pureté originelle, se dissoudra-t-il à nouveau en lumière.
Viendra sûrement un jour, dit-il, où le feu purifiera la terre. Viendra sûrement un jour où le feu mettra notre esprit en cendres. Le destin est une langue de flamme qui dévore ciel et terre. C'est le feu qui se trouve dans la matrice de la vie, le feu dans le tombeau de la faim. Entre deux hauts feux, nous dansons et pleurons.
Yanis Kokos, n'est-ce pas Séphéris qui disait, je crois, que la nature est comme l'intérieur d'un corps.
Oui, c'est Séphéris qui parlait de ça, je crois. Il parlait beaucoup de ça à partir du peintre Théophilos. Et il parlait de lui en disant que finalement, l'homme dans sa peinture faisait absolument partie du paysage. Il n'était pas détaché. Et comment les arbres, par exemple, la nature elle-même, elle était ouverte. Enfin, elle était comme si vue, comme si elle était vue de l'intérieur, comme si elle était vue de l'intérieur d'un corps, et que ses armes ressemblent à tous les organes d'un corps vivant. Mais par exemple, je crois que cette quête, disons, de la couleur et de la lumière grecque est assez exemplaire, par exemple, à l'intérieur de l'œuvre d'un peintre, d'un plus grand peintre, je crois, grec moderne, mais en même temps tout à fait au-delà de la Grèce, je crois, un des plus grands peintres modernes, qui est Tsaroukis. Et que finalement, dans son itinéraire, qui était une manière d'approcher la Grèce à travers l'Antiquité, Byzance, l'orthodoxie et l'art populaire, il a essayé, dans le tard de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il essaye de faire maintenant, de trouver à l'intérieur de la peinture de la Renaissance italienne ce qui est, en essayant d'imiter la perfection de la peinture italienne, de trouver ce qui est en fait de grec là-dedans. Mais de grec pas fantasmé, comme les Italiens pouvaient le faire par rapport à la Grèce antique, mais justement d'essentiellement grec, c'est-à-dire de cette lumière grecque, de la manière dont elle se pose sur les corps, de la manière dont elle glisse sur le corps, comme dit Eliotis, et de trouver justement ce rapport des formes qui à la fois portent en elle-même la couleur de la terre, parce que pratiquement tous les personnages qu'il a peints toujours ont cette couleur de terre complètement, et ces couleurs sont des couleurs de terre, et de cette lumière qui justement brûle cette terre-là. Mais là, elle brûle des corps. Et c'est, je crois, bon, c'est peut-être lui qui, à mon sens, est le plus proche de l'image que les poètes en donnaient de la lumière.
Et moi, je veux poser une question que j'aimerais perpendiculaire. Est-ce qu'il s'agit là, en définitive, d'une métaphore ou tout simplement d'une réalité ? Est-ce qu'on doit dire comme si ? Ou est-ce qu'en définitive, il s'agit simplement, non pas de représentation, mais de réalité ?
Ce n'est pas une métaphore.
Ce n'est pas une métaphore.
Non, ce n'est pas une métaphore.
Donc, ce qu'on voit plus clairement, c'est que bon, il s'agit d'un pays où nous voyons des choses qui sont en ciment et en poussière, oui, en pierre, mais sous la lumière du jour, il s'agit de toute autre chose.
Oui, parce qu'il s'agit, je dirais, d'une sorte de transcendance ordinaire. Et les choses se transforment, mais dans un quotidien, le quotidien le plus trivial. Et que finalement, ce n'est pas les choses en fait qui se transforment, c'est notre regard qui se transforme par rapport à elles. Et notre regard, justement, se transforme par rapport à elles parce qu'entre les choses et nous, il y a cette lumière. Et que finalement, c'est ça peut-être sa particularité. Et que la manière dont elle agit, elle est par exemple très différente, je crois, comme celle du Mexique ou comme celle de l'Amérique latine, où disons la prépondérance et la dominance comme ça de la lumière, enfin l'impérialisme de la lumière est très proche, ou comme celle d'Afrique, mais où en même temps la lumière est source, elle peut être source de terreur, je dirais aussi. Et en Grèce, les choses terribles peuvent arriver dans cette lumière, mais comme elle est absolument indifférente, les choses prennent un autre sens. On parlait de Mycène, je crois. C'est vrai que, par exemple, le paysage de Mycène est un paysage dans lequel on peut concevoir complètement les choses les plus terrifiantes. Et en même temps, il ne s'agit que de quelques pierres, même si elles sont un peu monumentales parfois, absolument encerclées dans quelques collines, et que c'est l'incandescence de cette couleur de terre conjuguée avec cette forme qui donne justement, je crois, ce sentiment tragique.
À vous écouter, je pense à peut-être une des clés, sinon de l'incompréhension, mais des clés possibles de la compréhension de la Grèce, serait de prendre la distance, la mesure de la distance entre nos vocabulaires. Je pense, quand on parle de la lumière grecque ou d'autres choses de la Grèce dans une langue étrangère comme la nôtre, on a tout de suite peur d'une certaine grandiloquence qui trahit une inadaptation du vocabulaire, en fait. Quand on parle de la Grèce en français ou peut-être même en anglais ou des choses comme ça, c'est un vocabulaire tellement traditionnel et usé qui vient sous les lèvres, même si le sens est différent, qu'on se trouve presque soit muet, soit obligé de parler à côté. Je ne sais pas si vous voyez, on a envie de parler de hautes leçons de morale, d'héroïsme, de ces mots qui, à l'intérieur de la langue grecque ou du pays grec, ont un tout autre sens, sont des choses naturelles, en fait, à la limite, enfin, entre guillemets, mais enfin tout de même naturelles. Elles sont simples, je veux dire. Alors que dans notre langage, avec toute notre histoire à nous, notre connotation, et finalement notre lumière à nous, qui met en scène, au lieu d'envahir le terrain, d'occuper tout le terrain, cela prend une allure grandiloquente, ça prend une allure moralisante, non pas morale, mais moralisante, ça prend une allure dont on conçoit très bien qu'elle soit insupportable, en fait. Et ça charrie beaucoup de malentendus, il me semble.
Oui, tout à fait, parce que c'est-à-dire que je crois que cette vision de la lumière, comme pour beaucoup d'autres choses, elle n'est que culturelle, je dirais. C'est-à-dire qu'elle ne met les choses qu'entre parenthèses. Tandis que, je crois, la réalité de cette perception de la Grèce, c'est pas des gros mots que j'emploie, mais c'est réellement une blessure, je dirais. C'est quelque chose de réellement physique. Et je crois que finalement, les grands philhellènes, comme ça, ont très bien senti ça, je crois.
Et même, ils se sont brûlés. Parce qu'en définitive, c'est à se demander si ce qu'on appelle un philhellène ne devrait pas parler de son propre corps, c'est-à-dire dire, moi, en Grèce, c'est pas une question de climat ou de vacances ou de ceci ou de cela.
Oui, je suis comme ça.
En Grèce, mon corps devient ceci, mes nerfs deviennent cela. Je suis dans tel état physique et mental où je le retrouve, où je l'acquiers, et c'est cela qui commande le reste.
Oui, c'est pour ça que je crois qu'Henri Miller était peut-être le seul capable de parler réellement de la Grèce. parce que finalement, même en parlant de quelqu'un d'autre, hein, dans le Colosse de Maroussi, il ne parle que de lui, de son rapport physique avec la Grèce, et finalement de rien d'autre. Et quand même, il ne s'attarde pas trop longtemps sur les divinités ou sur la sensation des rapports, enfin, la sensation culturelle.
Qui, elles, sont de l'ordre de la représentation de l'état physique.
Et bon, c'est ça qui est, je crois, très important. Bon.
Alors, quand on parle de métaphysique à l'intérieur de la langue grecque, ça n'a pas non plus tout à fait le même sens que celui que nous lui donnons.
Non plus.
La préoccupation métaphysique en Grèce, qu'on retrouve chez des poètes aussi ouvertement matérialistes, mettons que Ritsos, enfin, déclaré. Oui. Hein. Bon, ben c'est bien ce qui vient après la physique, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce qui découle de cette physique-là? Dans l'ordre de cette transcendance dont vous avez parlé tout à l'heure, qui n'est pas la transcendance nécessairement religieuse au sens catholique romain du terme ou
oui. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je crois que réellement, enfin, ce qu'on peut appeler la métaphysique, elle est liée à tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'elle est liée beaucoup plus à ce que je crois j'essayais d'exprimer tout à l'heure. Elle est beaucoup plus liée à cette manière inéluctable et terrible de savoir les contours de son corps. Et je crois que c'est là où tout est basé. C'est qu'on peut, comme on fait, je crois, dans des exercices zen, des choses comme ça, où on imagine un point faire le contour de son corps, fermant les yeux, le contour de son corps, et comme ça on prend conscience, disons, de la moindre... de ce qui fait le contour de son corps. C'est ça la métaphysique grecque, je crois. C'est cette manière de savoir le périssable, l'immédiatement, enfin le périssable, et que l'immortalité n'existe que justement dans cette périssable-là. Et la lumière aide beaucoup, je crois, à voir les choses de cette manière.
Et si l'on en venait à ce mot extrêmement dangereux et ambigu, et qui est le mot de mystique, qui est un mot sur lequel on achoppe sans arrêt, en grec, oui. Le mot mystique veut dire beaucoup de choses à la fois, c'est simplement le petit secret qu'on ne dit pas à sa sœur, ou au contraire celui qu'on dit, bon, il s'agit de choses à la fois tout à fait familières, et je ne pense pas que le terme de mystique ait le même sens dans cette langue dont le mot est issu, et dans les autres, et
je pense que vous en pensez. C'est-à-dire que c'est en fait, je crois que le mystique, est, en grec, ce n'est que le secret, et que en fait, ce n'est peut-être
ce qui ne se dit pas aussi.
Ce qui ne se dit pas,
parce que quelquefois, ce qui ne peut pas se dire, c'est quelquefois le non dit, tout simplement.
C'est le non dit aussi, mais ça reste toujours dans les sens, et c'est ça, je crois, peut-être une clé pour comprendre à la fois la poésie et la lumière. C'est qu'en fait, tous les mots que même la philosophie et les racines des mots, pratiquement d'une grande partie des langues occidentales, maintient dans la cage universitaire, comme ça, dans la cage du langage universitaire, ne sont que des petits mots, comme les petites miettes sur les tables de Ritus, ou comme une assiette sale sur une table.
Et quelquefois détaché d'un certain contexte physique qui fait que le sens se détourne quelque peu.
Oui, tout à fait.
Comment expliqueriez-vous que la mentalité, j'allais dire, positiviste, ait relativement peu de place en Grèce? Est-ce que c'est simplement une inadéquation, ou mettons ce qu'on peut appeler ce que des gens appellent d'ailleurs un retard économique ou culturel, mettons, comme si on devait tous passer par là. Est-ce que je veux dire, comment fonctionne la rationalité, la logique? C'est encore un mot qui, je crois, n'a pas tout à fait le même sens.
Non, ça n'a pas le même sens, parce que je crois, là, je lis vraiment quand même un sentiment très personnel. C'est que toujours, enfin, ce qui m'a beaucoup frappé en Grèce, enfin, surtout en revenant parfois avec distance, c'est la rationalité de la folie, je dirais. C'est-à-dire que les choses sont absolument ordonnées, enfin, en tout cas, qu'il y a une volonté de la part des gens d'ordonner les choses, d'ordonner leur vie, d'ordonner leurs sentiments, et en même temps, il y a un désordre extraordinaire. Mais un désordre qui est un désordre, c'est là où on peut, justement, à partir de ça, de parler de métaphysique. Cet équilibre, cette logique-là, et cette illogique totale, mais qui n'est d'ailleurs qui n'est pas enfin ce qu'on peut appeler la folie, mais qui est
l'un allant pas sans l'autre.
Oui, c'est ça, l'un pas sans l'autre, mais peut-être c'est la conjoncture la plus extraordinaire que je
et là il y a une permanence tout de même du désordre si j'ose aller jusque là du désordre babylonien remis en revue, je ne dis pas corrigé, mais revu par l'ordre égyptien.
Oui, aussi, et que en même temps, ce désordre et cet ordre, c'est finalement un peu la lutte.
Et est-ce qu'à votre avis, quel rôle jouent les poètes dont nous parlons, dans le monde grec? Il semble que ni leur place ni leur fonction ne soient tout à fait la même.
Non, ce n'est pas la même. C'est-à-dire que les poètes sont, enfin, disons tels que surtout, disons, on peut les qualifier pendant le XXe siècle, disons, prenons pour la poésie moderne, sont les compagnons de route d'une nation, je crois, avec ce que ça a de distance, des deux côtés, et ce que ça a de chaleur aussi, et d'espoir, je crois. Et finalement, très souvent, les poètes ont rêvé la Grèce. Même les poètes les plus engagés ont rêvé une Grèce complètement, une Grèce qui existe complètement, qui ont su regarder et voir très profondément, mais en même temps, l'image qu'ils ont donnée est une image, je crois, vraiment de rêve.
Dans Missolonghi assiégée, les femmes qui doivent mourir racontent leurs rêves. Les voici. La première dit « Il me paraissait que nous tous, hommes et femmes, enfants et vieillards, étions des rivières, de petites ou de grandes rivières qui couraient à travers des paysages lumineux, des paysages sombres, à travers champs, abîmes, en haut, en bas, et ensuite, pour finir, que nous nous jetions avec un grand élan dans la mer. Et dans cette mer, nos eaux douces surnageaient. Une autre dit, moi j'ai rêvé de laurier. Une autre, moi de lumière. Et la quatrième, et moi d'une belle dont la chevelure resplendissait dans les flammes.
Et très souvent, les Grecs aussi ont rêvé leurs poètes. Et ils ont donné aussi une fausse image d'eux.
C'est là qu'il faut parler de la légende et du mythe et comment ça joue un rôle précis. Au lieu de vouloir tout démystifier, finalement, je n'ai jamais rencontré un Grec qui veuille à tout prix déshabiller les choses définitivement, les désarticuler, etc. Mais faire fonctionner le mythe comme si c'était une chose qui fait partie de l'activité même de la pensée.
Oui, tout à fait. Et par exemple, l'exemple, je crois, typique est quand même Aristos, qui est vraiment peut-être qui est un des poètes, disons, les plus engagés, qui est un poète, en fait, matérialiste. Enfin, qu'on pourrait dire qu'il est matérialiste, et qui, en même temps, je crois, qui est un des poètes métaphysiques réellement les plus importants. Et que finalement, cette dualité, que je crois d'ailleurs, elle se plaignait qu'on se plaigne de lui.
En accentuant à la fois et son réalisme et son côté métaphysique.
Et son côté métaphysique. Ouais. Et peut-être la réponse extraordinaire entre l'esprit et la matière.
La poésie de la Grèce moderne. Au commencement était la lumière. Par Dominique Grandmont, Janine Antoine. Avec la participation de Yanis Kokos, Michel Hopneau. Collaboration technique, Michel Créis. Albatros.
C'était Au commencement était la lumière, un numéro d'Albatros de Dominique Grandmont avec Yanis Kokos et des lectures de Michel Hopneau. Réalisation Janine Antoine. Première diffusion le 17 février 1980.